And so, the third celestial sphere in proximity to the sun entered a new millennium. 6 billion souls inhabiting 266 nations. Their resentment and hopelessness proclaimed in 7,000 distinct dialects. A planet in total disarray.
Order the city police officer on trial for killing Amadou Diallo, who found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Society without government.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of 8-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Society without law.
In the declare our right on this earth.
People have been annihilated.
Anarchy.
In the declare our
right
on this earth.
Political and social.
Declare our right on this earth. To be a man. To be a human being. To be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary.
Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle. Avec cette émission, nous reprenons donc la suite de notre cycle d'émissions consacrées aux discriminations touchant les femmes issues de l'immigration et l'égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien avec Zora Arache, représentante de l'ASFAM, l'association Service Social Familial des Migrants, qui intervient depuis près de 60 ans dans le domaine de l'accueil et de l'intégration des migrants. Ces dernières années, elle a intensifié ses activités concernant l'accès aux droits et la lutte contre les discriminations. Donc tout de suite, cet entretien, ces échanges avec Zora Arache.
Nous animons auprès de structures de proximité telles que antennes jeunes, centres d'animation, clubs de prévention, établissements scolaires, clubs de l'UNESCO, etc., etc., des séances collectives autour de ces trois thématiques que sont la citoyenneté, la nationalité et l'identité. Effectivement, le but recherché est d'ouvrir un espace de dialogue qui permettrait à ces jeunes-là de s'exprimer sur l'identité, sur la nationalité, sur leur citoyenneté en tant que jeunes français ou en tant que jeunes dits issus d'eux. Et donc effectivement, ça se fait autour de plusieurs outils, hein, qui sont des outils maison, mais aussi des outils conçus avec d'autres opérateurs. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir un discours apaisé de ces jeunes-là qui finalement dénoncent un manque d'espace de dialogue, d'expression, donc dénoncent beaucoup un manque de reconnaissance de leur parole sur des choses qui les violentent, parce que parler de son identité, c'est pas serein, ils le font pas de manière sereine, ils vont le faire par des actes qui ont du sens pour eux, mais qui peuvent aussi violenter la société. Et donc du coup, nous autour de, donc je vous disais, d'expos, d'outils pédagogiques, notamment ce jeu-là, je peux vous le remettre si vous le souhaitez, qui s'appelle Jeu Distingo et qui nous sert aussi pour animer certaines séances. C'est un jeu ludique, un outil ludique style Trivial Poursuite qui permet d'animer des séances et d'aborder des questions liées à la lutte contre les discriminations. On démonte les stéréotypes, les préjugés, le racisme, l'homosexualité, la discrimination liée au logement, à la race, au sexe.
C'est vous qui avez conçu ce jeu ?
Notre structure l'a conçu avec le CLP, qui malheureusement a disparu aujourd'hui, avec d'autres structures. Hein. Vous avez un peu l'historique de la création de ce jeu. Donc on est co-concepteur. Et nous le commercialisons, de même que d'autres structures le commercialisent. Donc voilà. Donc c'est au niveau de la lutte contre les discriminations, symboliquement, c'est l'outil qui aborde cette question-là avec les jeunes. Donc dès 12-13 ans, mais jusqu'à 25 ans, puisque les questions sont adaptables. Et donc l'idée, comme je vous le disais, ces jeunes qui sont victimes de discrimination, enfin je veux dire, pour dialoguer avec eux, il faut reconnaître ça. Il ne faut pas leur dire « mais non, l'égalité, il y a une égalité des droits, mais non ». Il faut aussi être dans une reconnaissance de ce qu'ils vivent au quotidien. Et à partir de là, la seule règle que nous imposons, c'est un dialogue apaisé, respectueux de l'autre, et un dialogue qui se fait dans le respect des différents points de vue qui s'expriment. Et la parole est la seule arme. Voilà. On ne quitte pas la table, on n'agresse pas son interlocuteur, on ne le traite pas d'eux, on ne le tape pas, on respecte l'adulte qui anime la séance, etc. etc. Donc au niveau des jeunes, voilà la manière dont on aborde la lutte contre les discriminations. Et ce n'est pas le public le plus simple, parce que ce sont des publics écorchés vifs, parce que c'est des publics qui ne retrouvent pas leur place. Parce que c'est des publics aujourd'hui qui ne déclinent pas l'identité, parce que c'est quelque chose qui est à vif, c'est une identité qui est malmenée, hein, il faut le dire. Je veux dire, aucun jeune aujourd'hui, nous, dans ceux qu'on rencontre, quand on fait un tour de table, ne va pas dire bonjour, je suis Mamadou. Et machin, ou je suis Franck machin, ou je suis Mohamed machin. Non, ils n'ont pas ça. C'est ouais, j'habite machin. C'est marrant parce que le territoire, que ce soit une barre d'immeuble, que ce soit la porte d'entrée, c'est le territoire, c'est la pierre qui à un moment donné va cristalliser l'identité. Et c'est le groupe. Pourquoi ? Parce que les gamins, ils ne sentent pas. Je veux dire, nous, on va dire ben, je suis Aura Arrache. Mon identité, elle est derrière moi, je la porte de plus ou moins bien, mais en tout cas, je suis dans une capacité de la décliner. Je trouve que c'est pour les jeunes, c'est par là qu'il faut attaquer. Parce qu'on ne peut pas leur dire, mais oui, mais pourquoi tu votes pas ? Mais enfin, mais il faut exprimer ta parole. Quand ils sont refoulés des boîtes de nuit, quand ils sont regardés de travers. Hier, moi, j'attendais mon RER et à la gare RER, un petit jeune, un petit black, pantalon remonté au genou, etc., passe devant un couple. Ça, c'est une réalité, un couple quinca, costume cravate. Et il y a eu un regard de travers que le monsieur a. Son regard. Le gamin arrivait sur sa gauche, son regard l'a surveillé de sa gauche et l'a suivi comme ça jusqu'à ce qu'il passe devant lui et le dépasse. C'est pas innocent. Je veux dire, ces gamins-là, ils le ressentent. Et quand on leur assigne un rôle identitaire, un rôle d'absence de citoyenneté, ils se mettent en scène. Ils ne sont que dans ça. Moi, je suis assesseur au tribunal pour enfants dans le 93, dans le 95. Et sur 10 affaires, 10 audiences, 8 sont des gamins noirs, arabes, issus d'eux. Voilà. Je veux dire, ces jeunes-là n'ont pas le gène de la délinquance, c'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, ils posent des actes qui sont une réponse à des rôles assignés, à une maltraitance, à une discrimination latente.
Ouais, un regard porté sur eux.
Et se mettre en scène.
Créer une situation d'enfermement aussi, ou d'auto-enfermement éventuellement.
Mais oui, puisque... mais ils se mettent en scène.
Ouais.
Vous me voyez comme un brûleur, comme un mec qui se lève pas quand la petite vieille elle a besoin de s'asseoir, qui parle fort. Ben oui, mais moi dans le RR, je fais ça, je fume. Et oui, et je vous emmerde parce que vous me voyez comme ça. Et je n'ai pas envie de vous démontrer le contraire, parce que je vais vous donner ce que vous voulez voir.
Ouais.
Et je vais conforter vos petites cases qui me catégorisent, mais qui m'étiquent. qui m'étiquette. Hein. Donc c'est ça. Et les jeunes, c'est... Moi j'ai peur parce que c'est... j'ai peur parce que ce sont les fragiles, ils ne sont pas accomplis. Ils ne sont pas accomplis. Et ils ne peuvent être que dans des réponses, dans des actes forts. Mmh. Et c'est eux qui maltraitent in fine. Mmh. Parce que c'est eux qui remplissent les prisons, c'est eux qui vont se retrouver sans boulot, c'est eux qui sont les plus désarmés. Et voilà. Donc voilà notre ligne directrice en direction des publics des jeunes. S'agissant des publics de femmes migrantes, primo-arrivantes ou pas, sachant que la notion de primo-arrivant, c'est moins de 5 ans en France, c'est de 0 à 5 ans en France. Ce sont des femmes qui arrivent souvent pour rejoindre un conjoint déjà établi en France, maîtrisent mal la langue française, rares sont celles qui maîtrisent la langue française, pas ou très peu scolarisées dans le pays d'origine, donc comme je vous le dis, venues dans un statut d'épouse, souvent un statut d'épouse pas dans une émancipation folle, avec des stigmates un peu de... Des fois c'est caricatural, mais c'est la réalité des femmes au foyer, voilà, qui ne maîtrisent pas l'environnement. Elles sont débarquées d'un vivre l'exil dans une société, dans un pays où elles n'ont pas de famille. Le seul visage, c'est l'époux, la belle famille. Et donc, et des femmes qui ont le souhait de vouloir s'insérer professionnellement. Attention, ce ne sont pas, je ne dis pas que ce visage-là est celui de toutes les femmes migrantes qui arrivent en France à ce jour. Ce sont celles que nous retrouvons dans nos ateliers d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion sociale et professionnelle, ou des ateliers de savoir sociolinguistique. Donc c'est un visage particulier, parce que la nénette qui va arriver avec un bac plus 5, ou qui va venir parce qu'elle a décroché un boulot, qui a un projet de carrière, etc., elle n'a pas besoin de nous. Hein. Je veux dire, elle a un projet, elle le porte, et notre association, comme toutes celles qui lui ressemblent, rencontre ceux qui sont les plus fragiles. Donc du coup la vision va être peut-être déformée. Et donc ce sont des femmes qui ont le souhait de s'insérer professionnellement. Elles sont volontaires, elles ont peut-être travaillé dans le pays d'origine ou pas. En tout cas, elles ont le souhait de mieux connaître la société et de concrétiser un projet professionnel. Et bien ces femmes-là, maîtrisent de la langue française peu ou pas, un code vestimentaire qui n'est pas celui reconnu, valorisé en France, une non-maîtrise, une non-connaissance des codes culturels, sociaux de la société française, et donc du coup, victime par excellence, qu'on se le dise, quand elles sont dans une recherche d'emploi, de discrimination les plus basiques. Mmh. Madame, vous êtes enceinte ? Est-ce que vous avez l'intention ? Mais non. Ça, nous, on nous court, on a des modules de lutte contre la discrimination pour les informer ce que l'employeur doit dire ou pas, ce qui est discriminatoire ou pas. Parler fort, maltraiter, quand je dis parler fort, c'est... Des femmes sont vraiment maltraitées. Mmh. Une fois, l'une d'entre elles nous a raconté que dans le cadre d'une mission intérim, elle a été envoyée dans un restaurant. Et celle qui était supérieure, elle lui vociférait dessus en brandissant un couteau. C'était son outil de travail. Mais je veux dire, il y avait une gestuelle. La nana ne se contenait plus, quoi. Donc, ce qu'elle subit, ce n'est pas toujours lié à la discrimination telle que la loi l'explicite. Mais ce sont des comportements... souvent qui relèvent de la discrimination, donc punissable par la loi, et des fois c'est un manque de considération, c'est une maltraitance, c'est une dévalorisation, une disqualification. Donc voilà le travail qu'on mène avec ces femmes-là pour leur donner les outils qui les...
Parce que sur les codes vestimentaires, notamment dans l'entreprise, on sait très bien que ces codes s'appliquent à tout le monde. Il y a même des jeunes de certaines banlieues populaires, enfin dites populaires, parce que je savais pas que dans les quartiers riches, il n'y avait pas de peuple, il y avait des gens qui s'étaient extraits du peuple de telle manière qu'on ne les regarde plus comme faisant partie du peuple. Bon, ça c'est un autre problème. Mais des codes vestimentaires, on sait qu'il y a un problème d'apprentissage des codes par mimétisme social qui permet à un jeune, même s'il est blanc, avec un nom français, s'il ne les respecte pas, de se mettre en porte-à-faux par rapport aux attentes d'un employeur, par rapport aux convenances en règle dans le monde professionnel, quoi. Donc,
nous, il est clair, hein, une femme voilée, on en a beaucoup dans nos ateliers, il lui est clairement signifié que, madame, si vous souhaitez un jour concrétiser votre projet d'insertion professionnelle, sachez qu'en France, ouais, votre employeur est légitime à vous dire madame. Voilà. Mmh. Ça, c'est une réalité aussi. Mmh. Ça, mmh. C'est...
Tout à fait.
Mais ce que vous posez comme problème, c'est qu'aussi, face à ces publics, les employeurs avaient un certain type de comportement qui était en marge, enfin, qui n'était pas respectueux finalement, voilà, des normes, et n'hésitez pas, par exemple, comme vous le mentionnez, à dire « Madame, est-ce que vous comptez faire un enfant ?»
Ce qui, voilà,
et donc, ce que vous apportez, c'est justement voilà, des outils, enfin, finalement...
Des connaissances. Outils, effectivement, elles s'arment aussi, parce qu'en tant que futur salarié, elles ont des droits, elles ont des devoirs. Effectivement, parmi les droits sont, voilà, surtout au niveau du stade de l'embauche, des recrutements, on les prépare. Et effectivement, la lutte contre les discriminations, c'est un volet important où on sait bien que même si elles n'étaient pas migrantes déjà en tant que femmes, les femmes subissent pas mal de discriminations dans le milieu du travail. Elle, en tant que migrante, c'est la double, voire la triple discrimination. Parce que si elle, si leur culture se voit directement sur elle, déjà avoir discriminé en tant que femme, en tant que migrante, en tant que black, en tant qu'arabe, ou en tant que chinoise, en tant que... Voilà, elles sont victimes de plusieurs discriminations. Et nous, l'idée, c'est de les armer. Mais de même, on va leur donner des clés par rapport à la violence qu'elles peuvent subir en intrafamilial. On essaie, dans la mesure du possible, d'apporter à ces femmes-là des outils d'émancipation, d'autonomisation. D'émancipation, attention, on ne va pas leur dire brûler vos soutiens-gorge. C'est absolument pas ça, on n'est pas du tout dans ça. Mais c'est surtout de dire... vous avez des droits, vous avez des devoirs. Dans cette société, voilà les choses. On vous reconnaît un certain nombre de choses. Ça, voilà, vous vivez mal telle ou telle situation. Si votre parole est libérée, que vous souhaitez... Il y a des femmes qui craquent parce qu'elles vont dire bah « Oui, moi, j'ai subi ça. » Et donc, du coup, on ne peut pas être ignorante de ça. Parce qu'on ne peut pas faire abstraction. « Non, mais nous, on ne s'occupe pas de... » Non, on va dire « Sachez, vous êtes victime de violence dans la famille. » Voilà. En tout cas, notre manière de faire, notre approche avec ces femmes-là, c'est de dire être dans un respect de l'individu et dans une communication de tous les outils qui permettraient à cette personne-là d'être dans une dignité, d'être dans un... Attention, elles ne sont pas indignes. Hey. Elles ont une dignité, mais le parcours migratoire est destructeur de la dignité, qu'on veut ou non. Mmh. Il est fragilisant, il est destructeur. Il réduit les gens à des... On a des femmes qui avaient un bagage dans le pays d'origine, qui étaient assistantes dentaires ou que sais-je, infirmières, etc., et qui se retrouvent ici, et que dès qu'elles mettent le pied à Pôle emploi, on leur dit « Madame, femme de ménage », toutes les offres que leurs conseillers leur donnent, c'est femme de ménage.
Ouais.
Et on détruit ces gens-là.
Et quel est un peu votre regard sur justement l'environnement institutionnel, le rôle des pouvoirs publics? Est-ce que votre démarche, est performative? Est-ce qu'elle arrive à fonctionner? Est-ce que vous voyez tout un tas de barrières au niveau des pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a véritablement une volonté?
Est-ce qu'on observe des résultats, vous voulez dire, sur ce que, du côté des institutionnels et du côté des usagers?
Est-ce que vous, dans votre travail, vous avez des résultats? Est-ce que vous êtes aussi aidé par les pouvoirs publics?
On est financé par les pouvoirs
mais
publics.
Outre le financement, je veux dire, par exemple, je sais que sur ces questions, sur les questions de la discrimination, le positionnement de l'accès, par exemple, est critiqué par certains sociologues, notamment au niveau des statistiques ethniques, entre guillemets. Voilà.
Moi, j'ai un regard critique. J'ai pas envie de viser des institutionnels ou quoi que ce soit. Je pense que la question de la lutte contre les discriminations en France, elle a été... attention, je parle que de mon niveau, c'est un petit point de vue. Mmh. Mais moi, je pense qu'on a... On a occulté des débats vrais. La question des statistiques ethniques. Oui, parlons-en. Pourquoi on ne parle pas de ces choses-là? Pourquoi on ne dit pas... J'ai l'impression que de peur d'être accusé de racisme ou quoi que ce soit, on a occulté les débats. Et du coup, Bah oui, la lutte contre la discrimination, bah oui, on applique une directive européenne et on l'applique comme ça. Mais sauf que ça n'empêche, la lutte contre la discrimination, elle ne sera pas arrêtée parce que les mentalités, elles continuent à fonctionner d'une certaine manière. Et tant que la société, elle n'aura pas l'honnêteté intellectuelle de dire oui, aujourd'hui, il n'est pas normal qu'il y ait une surreprésentation dans le milieu carcéral des minorités dites visibles. Je veux dire, moi, c'est pas normal que sur 10 audiences, j'en ai 8. Enfin, c'est pas possible. Il n'y a pas un gène de la délinquance, donc il y a quelque chose. Et tant qu'on mettra pas les choses sur la table en disant qu'est-ce qui, à un moment donné, brise dans le parcours migratoire, dans le parcours social, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va rencontrer des parcours délinquentiels surreprésentés chez les jeunes issus d'eux ou français d'origine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, une femme migrante, primo-arrivante ou pas, ne trouve que des emplois de femme de ménage, alors qu'elle a un parcours universitaire dans le pays d'origine? Qu'est-ce qui fait qu'un migrant âgé aujourd'hui en France, c'est notre troisième public cible prioritaire, qu'est-ce qui fait que ce migrant âgé qui a bossé toute sa vie en France, qui connaît mieux la France que le pays d'origine, qui ne connaît plus sa famille, qui a vieilli loin de ses racines, qu'est-ce qui fait que ses droits à la retraite ne sont pas ouverts? Voilà, alors que le mec il a 70 ans, comment ça se fait? Alors qu'il a donné sa jeunesse à la France, il a contribué à. Ça, c'est pas normal. Et tant qu'on parlera pas, tant qu'on n'ouvrira pas le sac, moi je peux me permettre, parce que moi, Zora Arash, je suis d'origine marocaine, je suis nationalité française d'origine marocaine. Marié avec un Sénégalais en plus. Moi, je peux me permettre d'avoir un certain discours sur les Arabes, sur les Noirs, sur leur comportement. Il y a des choses qui sont inadmissibles de la part d'un Noir, d'un Arabe en France. Mais pourquoi est-ce que monsieur qui est bien blanc en face de moi ne pourrait pas se le permettre? Pourquoi? Parce qu'il est citoyen, il est porteur d'une parole et sa parole n'a pas à être taxée de racisme. S'il dit oui, non, mais c'est pas normal qu'aujourd'hui, dans les Noirs et les Arabes soient surreprésentés. Bon, je fais référence à la polémique avec Éric Zemmour. Dommage, ouais. Dommage, au lieu de le taxer de racisme et de lui dire de crier au loup. Mais non, il a raison. Il y a une surreprésentation. Là où il a tort, c'est de dire c'est qu'il a sous-entendu des choses liées à l'appartenance ethnique. Oui. Mais sa parole, la première partie de sa phrase, c'est une réalité. Et moi, ça me fait mal au cœur de m'arrêter au constat de cette réalité. Non, parce que le devenir de ces gamins, ce sont les futurs adultes de demain, les futurs citoyens de demain. Quelle appartenance sociale on leur offre?
Par contre, ce que j'aimerais peut-être préciser, c'est que la situation sociologique de la France, avec beaucoup plus de métissage qu'auparavant, depuis 20 ou 30 ans, donc qui avait commencé bien antérieurement, mais je me souviens, en tant que j'étais au lycée, moi, je sais très bien qu'aujourd'hui on parle des jeunes des banlieues casquettés, avec les chaînes en or, une espèce de lookage totalement formaté, genre rap, en même temps c'est un peu l'esprit, on a envie de faire du flouze avec un peu tout et n'importe quoi, voilà, de sortir très vite de l'école. Mais je me souviens, moi, quand j'étais au lycée, il y avait une immersion, il y avait toujours un risque, il y avait des bandes, il y avait des groupes cultivant une certaine forme de déviance. Je veux dire, sociologiquement, le fait que les jeunes issus des quartiers populaires, ou même pas, même dans moi j'étais dans le 9e, se coalisent en bande pour semer de la terreur, pour intimider le passant, pour s'attaquer aux vieux, etc., etc., pour les provoquer, nous c'était notre lot à tous, je veux dire.
C'est le propre de la
Et
violence.
C'était comme une espèce d'initiation, bon, nécessaire, on était un peu voyous tous, je veux dire, on était... Donc simplement, on a l'impression que ça a pris une couleur, c'était con. Avant, il y avait les blousons noirs en France.
Ça a pris une couleur, comme vous
dites. Ça a pris une couleur. C'est comme par hasard, on les stigmatise, on dit ces bandes-là, c'est parce que c'est des gens qui sont en défaut d'intégration, etc. Or, à l'époque, on était tous en défaut d'intégration, mais on n'avait pas à souffrir cette stigmatisation supplémentaire. On était peut-être mal élevés, mais on n'avait pas à souffrir la stigmatisation supplémentaire indue à celui dont la couleur de peau le distingue.
Mais c'est le propre de la jeunesse que d'interroger les règles que la société établit. Ça fait partie de la jeunesse.
Mais ça, on ne le dit pas suffisamment, d'ailleurs.
Mais non, mais non, mais on n'a pas intérêt à dire.
On a l'impression qu'il y a une nouvelle violence.
On n'a pas intérêt à le dire. On n'a pas intérêt à le dire. Parce que si on dit c'est le propre de la jeunesse, mais oui, bon, et qu'on sort de la stigmatisation et de la justification culturelle ou cultuelle. Ça veut dire que la société, si elle reconnaît une normalité dans le comportement du jeune en question, elle est obligée de lui donner quelque chose en lui disant je reconnais que ton comportement est propre à ta jeunesse, donc tu as une place dans cette société. Donc je dois t'offrir une contrepartie. Donc je dois te faire une place. Voilà, que tu puisses être en mesure de suivre une scolarité, trouver un boulot, trouver un logement, etc. etc. Or non. Moi, je suis peut-être trop... mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de bienveillance. Et on a peut-être tout intérêt à être dans cette stigmatisation, dans cette justification. Mais oui, ils sont violents. Mais vous voyez bien, ils brûlent les voitures. Vous voyez bien, ils se tabassent entre eux. Ils agressent les petites vieilles. Ils font ci, ils font ça. Mais oui. Mais pourquoi ils font ci, ils font ça? Pourquoi? C'est où on les autopsie quand ils sont décédés pour voir s'il n'y a pas les tares, voilà, s'il n'y a pas des stigmates comme on le faisait il y a deux siècles, voilà, pour voir les grands criminels, peut-être qu'ils sont
porteurs. Appeler la physionomie à l'époque.
Ben oui, peut-être. Où on se dit, mais non, il y a un truc, il y a une cassure. Et moi, je suis convaincue que le parcours migratoire, il n'est pas anodin dans ce qui se passe. Il est destructeur. Il a fait voler en éclats des cellules familiales. Il a dégradé l'image du père, de la mère. Et un jeune aujourd'hui, quand la société maltraite son père ou sa mère parce qu'il est différent, parce qu'il ne maîtrise pas la langue, parce qu'il a trimé toute sa vie et qu'à la fin, il n'a aucune reconnaissance, il va dire quoi? Mais moi, je n'ai pas envie de finir ouvrier. Mais oui, ils n'ont pas la chance d'être fils de médecin et d'avoir les bibliothèques remplies pour satisfaire leur curiosité, d'avoir une culture G. Ben oui, ils n'ont pas un papa ou une maman qui va les aider et qui va payer des heures sup. Mais oui, mais ça s'appelle... et malheureusement, il y a un déterminisme, quoi. Et eux, je ne les justifie pas, parce que rien ne peut justifier de s'attaquer à une vieille personne. Rien ne justifie qu'on vole, qu'on tabasse, qu'on brûle, surtout quand on brûle les écoles les écoles où vont ses petites sœurs ou ses petits frères, quoi. Rien ne justifie ça. Mais moi, j'ai envie d'être dans une démarche de compréhension. Parce que je me refuse de dire « Ah oui, non, mais oui, c'est normal. Il est habillé comme ça, il habite là, il a cette couleur-là. Oui, mais oui, ça ne m'étonne pas. Non, j'ai pas envie de...
Ouais. »
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission des Périphériques vous parle. Nous allons reprendre l'écoute de nos échanges avec Zora Arache, représentante de l'ASFAM, Association Service Social Familial des Migrants.
Et au niveau de votre travail avec les femmes, du coup, sur quoi ça aboutit? Est-ce que une part importante arrive à accéder à un emploi? Est-ce que, de la même manière, il y a d'énormes frustrations? Est-ce que cette difficulté d'intégration professionnelle ou autre crée aussi des brisures et peut-être une forme de révolte? Est-ce que de la même...
Non, chez les publics femmes, non. Nous, on a des femmes qui ont une volonté remarquable, hein, qui sont c'est vraiment des femmes avec une énergie, une volonté de s'en sortir, de faire en sorte que leur famille s'en sorte, que les gamins, elles sont dans une préoccupation réelle du devenir de leurs gamins, et une volonté de s'en sortir aussi professionnellement, parce que derrière, c'est aussi c'est un confort matériel, etc., etc. Et c'est vrai que grâce à cette volonté, on a 30 à 40% de femmes qui réussissent à accéder à une formation qualifiante ou pas, à une formation poussée en apprentissage linguistique, à décrocher un travail en CDD, ou rares sont les CDI. Mmh. Mais voilà, on a quelques réussites. Après, malheureusement, le restant, ce sont des femmes qui, certaines vont se rendre compte que finalement, avoir un boulot, c'est pas ça qu'elles voulaient, parce qu'il faut gérer le gamin, les gamins, le plus souvent. Il y a aussi le boulot à la maison. Il y a un moment donné, elles se rendent compte que l'insertion professionnelle ne va pas répondre à tout, parce que ça va soulever d'autres problématiques. Mmh.
Ouais, mais en même temps, c'est peut-être dû à ce nombre de barrières innombrables pour accéder.
C'est ça.
Enfin, voilà, c'est un peu dommage, parce que, comme vous le ressentez, et comme je le crois, moi, par ailleurs, il y a une volonté farouche à la base, et qui est peut-être aussi brisée par tous les obstacles qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est un peu... je trouve ça un peu dommage, quoi.
Oui, quand c'est la question du mode de garde des enfants, j'ai envie de dire que toutes les femmes le rencontrent, hein, et et en plus à Paris, quoi. Ouais. Mais bon, quand une femme, elle trouve quelques heures de ménage, hein, et qu'elle doit faire garder son gamin, et que le coût de la garde va, ou qu'elle doit faire 2 heures, ou qu'elle doit courir d'un coin de Paris à l'autre pour quelques heures de ménage, mais oui, moi je comprends leur épuisement. Oui, ça c'est une réalité aussi. Et ces femmes-là, attention, on leur offre pas des boulots, on leur offre des boulots de femmes de ménage, chez les particuliers ou dans les bureaux. Elles doivent courir. Elles ont aussi elles sont assignées à certaines offres d'emploi. Hein. Ça c'est une réalité aussi.
Et il y a pas justement. Enfin, j'en sais rien, de travail au niveau aussi des employeurs, enfin de l'autre partie de la société, pour travailler sur ces représentations, parce que, enfin, on a l'impression que, j'en sais rien, que, enfin, le travail que vous faites est remarquable, très important, etc. C'est sûr qu'il faut aider ces publics, mais en même temps, on a la sensation qu'il y a vraiment un travail immense à faire de l'autre côté, et tant qu'il n'y aura pas le pendant, comment faire fonctionner?
Nous, quand je dis nous, la délégation de Paris, donc, que je dirige, a pris part à un projet mené au niveau national par le CNIDFF, le Centre National d'Information des Droits des Femmes et de la Famille, et la DRIC, qui est l'Agence de Développement des recherches interculturelles et pour la citoyenneté. Et donc, on a été le référent local du projet sur Paris, et c'est un projet qui s'appelle Primo Arrivante Intégration dans les territoires. Effectivement, il s'agissait de faire un travail en direction des professionnels qui sont dans l'accueil et l'accompagnement des femmes migrantes primo-arrivantes de pays tiers, et en faveur de leur intégration. En fait, c'est comment identifier les difficultés spécifiques à ces femmes-là pour mieux les accompagner, parce qu'elles rencontrent des difficultés qui sont spécifiques à elles en tant que femmes migrantes. Et effectivement, l'un des axes d'approche qui a été choisi, c'est celui de sensibiliser ces publics-là, et pour que les professionnels eux-mêmes ne soient pas dans des représentations, ne soient pas dans une démarche de disqualification. Là, ce sont les travailleurs sociaux. Effectivement, ils étaient ravis parce que eux-mêmes étaient dans le constat que, effectivement, quand ils rencontrent une femme migrante, ben oui, il y avait des choses qui venaient. Donc, il y avait des réflexes qu'ils avaient. Effectivement, peut-être qu'ils auraient tendance à, s'ils l'accompagnent vers l'emploi, plus la diriger vers une offre de femme de ménage. Oui. Alors qu'ils vont être ignorants de son parcours antérieur, professionnel, universitaire.
Il n'y a même pas de sorte de bilan de compétences.
Par exemple, les femmes de Montreuil nous disaient, notamment les jeunes avec lesquels nous avions parlé, nous disaient qu'il y avait plutôt là, au contraire, un travail qualifié. Mais une espèce de filière où baignaient beaucoup de jeunes femmes maliennes, c'est-à-dire qui étaient aiguillées par le système éducatif, presque comme par prédestination dans le secteur sanitaire et social.
Eh oui, mais ce n'est pas le propre des maliennes aujourd'hui.
Pour ce qui est concerné, ces jeunes maliennes.
Ouais, enfin, ouais, oui, mais les métiers dits d'aide à la personne, en service à la personne. Aujourd'hui, c'est...
Même infirmière, enfin un peu moins, mais...
Auxiliaire de vie, ce qu'on appelle auxiliaire de vie. Aujourd'hui, les femmes migrantes sont surreprésentées. D'ailleurs, l'Accès avait commandé une étude sur les migrations, l'histoire des migrations en Île-de-France. Et déjà, du temps des migrations espagnoles, italiennes, portugaises, ces femmes migrantes des premières vagues étaient déjà assignées à ce genre de métier. Une espèce de division du travail qui fait que... alors que... Il y a un réflexe de disqualification de ces femmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés dans tout ce qui est reconnaissance des diplômes, parce que, etc., etc. Vous parlez des bilans de compétences. Maintenant 2 ans, me semble-t-il, l'Office français des immigrations et de l'intégration.
Les acronymes.
L'OFI, hein, on vérifiera. Donc, qui a remplacé l'ANAEM.
L'ANAEM qui est
l'Agence nationale d'accueil des étrangers et des migrations. Et donc l'OFI maintenant, vous savez, quand un migrant ou une migrante arrive dans le cadre du regroupement familial en tant que conjoint français, en tant que salarié, etc., il signe ce qu'on appelle le contrat d'accueil et d'intégration. C'est l'engagement qu'il a avec l'État pour qu'il s'engage dans une... C'est ce qui fait son intégration républicaine. Et c'est ce qui va conditionner le renouvellement de son titre de séjour, enfin, parmi d'autres choses. Et donc, dans ce qui est prescrit dans le cadre de ce contrat d'accueil d'intégration, on a ce qu'on appelle une formation civique. C'est présenter la France, son histoire, les droits, l'égalité femmes-hommes, etc., etc.
Les principes.
N'est-ce pas ? Formation vivre en France, on est sur un peu un enseignement plus pratique. Vous voulez chercher, trouver un emploi, voilà vos interlocuteurs, l'école, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, il y a des formations linguistiques pour les personnes qui en ont besoin, qui ne maîtrisent pas la langue. Et il y a un bilan de compétences. Désormais, ça fait 2 ans, hein, l'OFI a un opérateur pour faire passer des bilans de compétences à des personnes qui ont un parcours professionnel antérieur. Je trouve ça bien parce que, voilà, on se penche sur le parcours professionnel antérieur, sur ce que la personne, quand elle arrive en France, avant, on avait l'impression que, avant c'était zéro, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, quoi. Donc c'est vrai, la personne, elle était inexistante, elle n'apportait rien, elle n'avait aucune plus-value. Et aujourd'hui, c'est pas encore suffisant, mais il faudrait de plus en plus tendre vers ça.
D'accord.
C'est la personne, elle vient avec une richesse. Et aujourd'hui, en 2009, les statistiques de l'OFI, au niveau des femmes migrantes primo-arrivantes sur le territoire parisien, donc attention, ce n'est pas toutes les femmes qui sont arrivées en France en 2009, ce ne sont que celles qui ont signé le CAI. Donc c'est une certaine catégorie de femmes qui ont eu un certain type de séjour. On a un pourcentage très important de femmes qui ont un niveau scolaire secondaire ou universitaire.
Oui, mais ça, c'est vrai.
C'est un vrai changement. Ouais. Et il serait dommage, avec de telles données, de continuer que les pouvoirs publics ou les organismes Pôle emploi ou d'autres soient dans des assignations. C'est pas possible.
Non, mais ça, c'est un autre mythe. Mmh. C'est mental et culturel, mais du côté français, c'est vrai que quand on analyse un peu finement les cursus scolaires, universitaires et professionnels des arrivants, généralement, enfin, c'est un cliché de dire que c'est des gens, des paysans africains sans bagage professionnel ou universitaire. C'est complètement faux, c'est une vue de l'esprit, quoi.
Notamment sur la migration féminine, elle a subi aujourd'hui de plus en plus de femmes s'emparent du projet migratoire et viennent en tant que femmes migrantes. Elles le portent, le projet migratoire, elles ne viennent pas plus seulement en tant qu'épouse, fille, ou elles ne viennent pas rejoindre, elles n'ont pas un rôle secondaire. Elles sont des femmes porteuses d'un projet migratoire. Souvent, elles laissent les enfants et le mari dans le pays. Elles viennent seules, elles concrétisent le projet, elles font venir le restant de la famille. Ça, c'est remarquable en termes de volonté de ces femmes-là, mais messieurs, les femmes sont remarquables.
Mais on est d'accord.
Quand on veut des actes, on appelle les femmes, c'est ça. et de plus en plus viennent avec un. Elles ont un bagage. Je crois que c'est une sociologue, j'avais lu dans l'une de ses interventions, là son nom m'échappe parce que ma mémoire elle est défaillante, elle disait qu'avant on considérait la femme migrante comme le bagage invisible du migrant, du travailleur migrant. Alors elle arrivait, elle restait dans la... elle était invisible pour les voisins, pour la société, parce qu'elle n'était dans aucune démarche en termes d'emploi, en termes d'apprentissage de la langue, en termes de suivi, de rôle parental pour les gamins. Aujourd'hui, celles qui se déplacent pour rencontrer les profs, celles qui viennent au tribunal quand le gamin est jugé, ce sont les mamans. La plupart.
Bien sûr.
J'enlève pas au père qui se déplace, mais elles ont une présence, elles ont une part active. Et du coup, elles sont plus visibles avec des demandes et leur visage a changé. Effectivement, elles ont un parcours professionnel, universitaire ou scolaire qui est affirmé. Donc, il serait dommage que la société française se coupe de ses forces vives, puisqu'elles arrivent dans la fleur de l'âge. Comme quoi, ça caractérise toutes les migrations.
Peut-être une dernière question, c'est j'aimerais savoir... par rapport aux jeunes avec lesquels vous travaillez, adolescents ou peut-être
jeunes majeurs,
par rapport à cette question des discriminations dont elles sont reçues ou perçues, quelle différence vous observez entre les jeunes filles, les jeunes hommes? Est-ce qu'il y a une différence vraiment, un type de discrimination qui est beaucoup plus mis en avant par exemple par les jeunes filles, les adolescentes, par les jeunes hommes, les adolescents?
Non, c'est vrai qu'à cet âge-là, les pré-ados, ados, on remarque pas de. Déjà, ils ne sont pas ils n'arrivent pas à expliciter ce qui relève de la discrimination ou pas. Ils vont dire bon, c'est du racisme. Et malheureusement, il y a des choses qui sont intériorisées. Ils ne sont pas dans une démarche de revendication, de dénonciation. Et ça, j'ai envie de dire, c'est propre à tous les migrants que nous, on a rencontrés. C'est qu'ils sont dans une sorte de résignation. Voilà, c'est symptomatique de la fragilisation et du fait qu'ils ne se considèrent pas comme des citoyens à part entière.
Oui, et c'est symptomatique aussi, je pense, de la situation du migrant, aussi en règle générale. Au-delà de ça, on pourrait parler, il y a des communautés qui sont totalement aphones.
On le voit pour les Chinois.
Pour les Serbes, à Paris, on a beaucoup de... C'est-à-dire, on est accueilli, il faut qu'on fasse attention.
On est invité,
on est accueilli, donc il y a une forme de docilité qui est un peu celle du migrant, qui a toujours été, je veux dire, les Russes blancs à Paris... Et tout ça, c'est-à-dire qu'on a, des communautés, comme vous disiez, c'est-à-dire que le fait de migrer fragilise.
Fragilise. Mais quand vous êtes français, quand vous êtes né ici, quand vous êtes la quatrième génération.
Ah oui, alors là, oui.
Vous ne connaissez rien du pays d'origine, vous ne maîtrisez même pas la langue de vos parents, de vos grands-parents.
Par exemple, je sais que j'ai fait un entretien précédemment avec Safia Lebdi, qui maintenant est élue à la région, avec les Insoumises. Bon, elle, effectivement, son parcours a été un parcours. d'affirmation, c'est-à-dire véritablement, je n'oublie pas le lien intracommunautaire, mais en même temps, on m'incrimine dans ma communauté de trahir ma communauté parce que j'acquiesce en tant que femme aux valeurs de la République et j'ai envie d'avoir une vie professionnelle, une vie publique, une vie politique. Donc elle fait le choix à un moment donné d'une rupture pour justement se réaliser en tant que celle qu'elle voulait devenir. Et donc là, l'attitude revendicative, finalement, s'est révélée totalement payante, ce qui n'était pas évident au début.
Hein. Mais moi,
je ne suis pas en train d'en faire un exemple.
Non, vous avez raison. Malheureusement, c'est aussi c'est ce genre de parcours qu'on met en évidence. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être en rupture avec la communauté ou en rupture avec la société française? Finalement, je veux dire... Il y a du bon à tirer des deux choses. Oui. C'est une richesse aujourd'hui, je veux dire, c'est la et un gamin qui a une double culture, une double. C'est un gamin qui est, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est, moi, je le vois comme une richesse. Ouais. Hein. Et j'ai pas, et je vais pas le. Aujourd'hui, on n'est pas intégré, surtout pour les nanas, on n'est pas intégré parce qu'on fume, parce qu'on porte une mini jupe. Je suis désolée, c'est comme ça. Les femmes d'origine machin. Si vous dites non, je bois pas d'alcool à une, enfin à la fin d'un colloque ou machin, ah bon ? Elle est tuée. Je veux dire, c'est tout de suite. Ah, je suis sûre qu'elle porte le voile dès qu'elle sort du bureau. Ouais. C'est ça. Et je veux dire, non, il y a une diversité de parcours, une pluralité de parcours. Et malheureusement, que ce soit du côté des communautés ou du côté de la société française, on a obligé certaines personnes à faire des choix de rupture. Mmh. Alors que non.
Pour la question de l'alcool, lorsque c'est une Française, Lyon blanche, qui dit « je bois pas l'alcool », on dit « ouais, c'est une ancienne alcoolique ».
Ou elle est enceinte. Alors l'employeur dit « merde, elle est enceinte ». Elle va me poser un congé mat d'ici peu.
Mais par exemple, avec l'association des femmes maliennes, on avait vu justement cette importance de la double appartenance. À la fois, on a une critique vis-à-vis des valeurs traditionnelles de la communauté, notamment la prépondérance phallique. On a envie de se soustraire à son joug. Et en même temps, on est obligé de garder ce lien communautaire, de manière à être quand même soudé pour faire face aux obstacles, aux problèmes que la communauté rencontre par rapport à son insertion dans la vie.
C'est intrinsèque etc. à l'exil.
Et donc, il y a cette... Oui, c'est intrinsèque à l'exil.
Les expatriés français, ouais, ouais. Ouais, ouais. Les
La question du choix, ouais. Elle n'est pas légitime, effectivement. Enfin, pourquoi faire le choix entre une certaine appartenance d'origine et la société de toute... Enfin, je pense que les deux sont compatibles.
Ça dépend à ce à quoi tu te confrontes. Si tu te retrouves dans une communauté où, en tant qu'homme ou en tant que femme, la famille t'assigne à un rôle social qu'elle juge conforme par rapport aux traditions, par rapport à ton statut de la femme, de l'homme, tu es en droit de... Mais ça existe, ce que je lisais, c'est que ça existe de la même manière dans les familles bourgeoises françaises. Mmh. On a une assignation de fait... dans la grande bourgeoisie, que je connais un petit peu quand même, où il y a une espèce de reproduction des classes sociales, où c'est très difficile pour une jeune fille, un jeune homme, de devenir autre chose que de s'inscrire dans ce qui sert la transmission du capital, de telle dynastie, etc. etc.
Vous avez raison, et ce que je trouve dommage, c'est pas que la société française qui contraint à ces choix de rupture, la communauté aussi, vous avez complètement raison. Et aujourd'hui, il ne faut pas être dans un angélisme. Nous, on voit beaucoup de femmes qui, quand elles sont victimes de violences, elles sont dans une incapacité de partir du domicile ou de rompre, parce que dès qu'elles font une démarche, vous avez tout le village du Mali ou du Sénégal ou que sais-je, qui va appeler, mais non, tu ne peux pas faire ça. Il y a tout le poids du clan, de la communauté là-bas, ici, qui fait front pour que... Et ça, ce n'est pas possible. Je veux dire... Sans être dans un individualisme à outrance, je veux dire, il n'y a rien sans l'individu. Moi, je suis dans le respect de son individualité. Mmh. Et je suis désolée, quelqu'un qui est en France depuis 30 ans, il n'est plus marocain. Il n'est plus marocain, il n'est pas français, totalement, comme le petit voisin qui, lui, voilà, il est né... Il est là depuis des générations et des générations, comme François, ou je veux dire le petit Mohamed, qui dont les parents sont arrivés il y a 35 ans. Il n'est pas français comme le petit François, mais il n'est pas marocain non plus. Mais il est le résultat de ces deux choses. Et c'est ça qu'il faut mettre en, qu'il faut valoriser, non pas assassiner en le mettant toujours dans le rôle de l'étranger, intrus ou invité dans le meilleur des cas, ou en tout cas de celui qui est tout le temps qui arrive et puis qui de toute façon va être amené à partir. Non, c'est pas possible. Il va rester là. Donc comment la société va en tenir compte? Comment elle va comment elle en tient compte dans sa construction, quoi, tout simplement. Et ça, c'est pas gagné.
Vous venez d'écouter Zora Arache, représentante de l'ASFAM, Association Service Social Familial des Migrants. Ainsi se termine cette émission, qui s'inscrit donc dans le cycle d'émissions des Périphériques vous parle, consacré aux discriminations touchant les femmes issues de l'immigration et de l'égalité hommes-femmes. Cette émission, ce que vous venez d'écouter, sera rediffusée mercredi prochain de 10h à 11h. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 Bande FM. Restez à l'écoute. À très bientôt. Thank you.
City police officer on trial for killing Amadou Diallo was found not guilty on all charges. The officers admit they fired 41 shots at Diallo because they thought his wallet was a deadly weapon.
The slaughter of ethnic Albanians by Serbs continues in Kosovo.
Streets of Miami's Little Havana clogged with thousands of protesters vowing to prevent the return of eight-year-old Ilian Gonzalez to his father.
Two teenage gunmen entered Columbine High School and opened fire, killing 13 students and wounding 23.
Thank you.